Μάρι, Κοζέμου Λουιδέ, Μάρια Μασάφου, Μπαχαρόπο, Νόσα, Τζενάχπα, Φυσούσα, Μάντε Κνεσχά, Φυσούσα, Φυτούνε, Εκεί, Μα Φυσούσα,
On est trois à faire un tremplin sur la thématique des 10 ans de la révolution tunisienne. Alors voilà comment c'est passé. On s'est vu dans un recoin de porte, masqué à discuter de couvre-feu et autres non-joyeusetés du Covid. Et là, tu nous as dit qu'en Tunisie, le couvre-feu était à 16h, au mois de janvier, avec un confinement spécial, notamment pour mater les manifestations en mémoire de la révolution d'il y a 10 ans déjà. C'est vrai qu'à une époque, on y croyait à la révolution, notamment celle en Tunisie. Du point de vue français, ça nous a fait rêver. Eh ben toi, t'habitais là-bas, t'as eu envie de nous en parler. Comme nous aimons de faire de la radio, on a voulu creuser ce sujet à trois voix. Aujourd'hui, nous revenons sur la révolution d'il y a 10 ans, et on fera un deuxième volet. On sait pas encore quand. Avant les 20 ans de la révolution, ça c'est sûr. Mais d'abord, pourquoi on aime faire de la radio ?
J'ai découvert Radio Canu en 2008 quand on m'avait invité pour une courte interview. Puis j'ai participé à une émission féministe et une autre contre les prisons. Faire partie d'une radio associative militante sans salariés a toujours et est toujours une expérience assez détonnante. Je commençais à m'impliquer dans les luttes, je sortais d'études artistiques et de petits boulots étudiants. D'ailleurs, ce bagage universitaire m'a aidé à avoir de l'assurance à créer du contenu radiophonique. Puis, faire partie de Radio Canu, c'est faire partie de l'héritage de ces luttes quand il n'y avait que la radio d'État. Et ça m'a beaucoup formé et apporté dans ma vie. On pourrait dire que l'existence de nombreuses radios associatives montre la vivacité de la démocratie actuelle, qu'il n'y aurait plus de censure. Mais est-ce vraiment vrai ? Est-ce que parce que tu as le droit, tu prends la liberté de le faire ? Faire partie d'un média autogéré, diffuser des opinions, de la musique, vient faire se rendre compte à quel point l'expression est normée et que d'une manière, être à Radio Canu est la possibilité d'être en opposition à des normes, de pouvoir s'approprier le savoir, les idées, et de réfléchir comment critiquer les pouvoirs en place, diffuser d'autres styles de musique. Cependant, on doit respecter le cadre des radios associatives, avec des règles avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Une forme de censure s'opère dans la radio, avec lesquelles on aimerait s'en foutre. On doit diffuser un pourcentage de musique avec des paroles en français, pour faire la promotion de l'exception culturelle française. On doit traduire tous les propos en français, comme si ce qui était dit dans une langue étrangère, ce serait dangereux. Et le collectif, quant à lui, de Radio Canu, impose de ne pas dire des propos sexistes, homophobes, transphobes, racistes. Ce qui fait qu'on censure par choix politique des contenus que l'on trouve discriminants, et qu'on voudrait s'épargner à avoir encore les entendre dans cette radio. Bien que malheureusement, tout le monde ne se rende pas compte des propos qu'il dit discriminants. Dans la radio, on participe aussi à remettre en question les formes de censure qui existent dans la société française et qui ne se cachent pas trop en ce moment. Comme l'enquête demandée par la ministre sur les universitaires islamo-gauchistes, la censure du journal L'Envolé, où des prisonniers et prisonnières, leurs proches, des militants critiquent ouvertement l'administration pénitentiaire. De façon récurrente, les plaintes de ministres de l'Intérieur contre des groupes de rap dénonçant les violences policières. Le coup de pression sur une des émissions de Radio Canu qui avait fait une blague au moment des manifs de nuit de Bakeux, vous en rappelez ? Ils manifestaient de nuit, cagoulés, des flics, quasiment que des gars. C'était franchement flippant. Le libéralisme aussi crée de la censure. Actuellement, combien de radios du type de Canu ont survécu ? Combien de radios diffusent de la musique sans objectif marchand, sans produire de l'info calibrée ? Celle qui ne laisse pas la place à des mots de travers, des osottements, les accents, des hésitations, des explications. Est-ce que l'argent censure les expressions ? Ce n'est pas ce que je veux dire. Être payé quand on fait de la radio permet de subvenir à ses besoins et amène d'autres formes d'expression que celles que je connais pour ma part quand on se forme sur le tas, quand on est au chôme dû, au RSA, où on fait du montage le soir après le travail, entre 22h et 2h du mat. Si vous ne l'aviez pas très bien compris, j'aime faire partie de ce mouvement des radios libres, des podcasts de l'internet faits de briques et de brocs. C'est réfléchir aux médias et agir dessus à notre manière. C'est chercher le savoir, vouloir critiquer ce monde et diffuser des idées féministes et autres. Du coup, c'est apprendre. Et le savoir est une arme, comme dirait le rappeur Medine. Donc avoir des invités, se rencontrer à travers des micros, c'est continuer à s'enrichir, nourrir nos luttes, confronter nos points de vue. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette émission avec vous. Et vous alors ?
Bonjour, plutôt bonsoir. Je suis très très content d'être avec vous ici à Radio Canu pour la première fois. Et c'est un endroit très chouette. Alors je m'appelle Aziz Trabelsi, je suis tunisien, je suis à Lyon pour faire des études de psychologie. Et j'aime bien faire la radio. J'ai commencé en 2017 à Tunis avec une petite expérience. Donc c'était un peu contradictoire parce qu'au début on travaillait sur un événement sur la question de surdité. Alors c'est un peu paradoxal d'utiliser la radio, mais c'était trop bien comme expérience parce qu'on a partagé notre contenu sur la radio, c'était trop bien. On a essayé aussi de vulgariser, de partager des informations sur la radio, c'était trop trop bien. Et après j'étais invité dans des radios privées pour parler de cette expérience. Et au fait, en grosso modo, c'est une expérience. Là, on invite des personnes entendantes pour vivre la surdité et pour les sensibiliser. Donc, c'est ça ma petite expérience avec la radio. C'était trop bien. C'était nouveau le fait de parler avec des gens qu'on voyait pas. Envoyer des ondes, envoyer de l'énergie à travers la voix, ça c'est trop bien. Donc c'était vraiment très chouette comme expérience et comme quelque chose à vivre dans notre vie. Et après, avec ma meilleure amie, on a pensé à faire des podcasts. Donc de parler de tout ce qu'on veut, de créer un petit espace, de partager du savoir, de partager de notre vécu avec les gens en Tunisie, parce qu'en Tunisie on n'a pas beaucoup d'espace pour en parler, on n'a pas beaucoup de radios associatives, on a juste des radios privées, ben c'est des radios avec de la publicité, des plateaux qui sont vraiment bien bien pleins de gens pour parler de tout et de rien, donc c'est comme un peu la télé. Voilà, on a aussi la Radio Nationale qui est vraiment une radio bien exceptionnelle et spéciale, parce qu'on n'a pas le droit de tout dire, on n'a pas le droit de tout partager, il faut vraiment savoir quoi, qui et tous ces détails, mais aussi ça reste de la radio, ça fait du bien aussi. Et donc c'est une radio qui partage beaucoup d'actualités, d'infos, etc. de la Tunisie. Donc ça fait du bien. Et ça fait du bien aussi de refaire cette expérience ici en France, de parler aussi de la révolution tunisienne. J'allais faire un petit lapsus de dire la révolution française. Non, je vais parler de la révolution tunisienne ici en France, à Lyon, à Radio Canu.
Et alors moi, j'ai commencé la radio au Mexique, il y a plus de 10 ans. Puis quand je suis rentrée en France, j'ai commencé mes pas avec une émission féministe de Radio Canu, Lilith, Martine et les autres. Et l'aventure a continué en participant à On n'est pas des cadeaux, mais aussi en créant une émission avec le CRAP. C'était et c'est toujours un collectif de lutte antiraciste et anticoloniale. Le média radiophonique m'a plu rapidement, déjà parce que j'avais grandi avec la radio allumée, et c'était plutôt des radios musicales, des radios... Mais j'adorais, en fait. Mais aussi parce que, par ce biais, on peut entendre différentes voix. Et on peut s'exprimer. Et ça, pour moi, c'était vraiment... Et c'est toujours vraiment super, faut le dire. Mais ça m'a posé plein de questions. Comment dire des choses sans se faire récupérer avec un mauvais montage? Si ma voix était utilisée contre moi et nous? Bref, c'est un long débat. Mais dans tous les cas, être derrière un micro et s'exprimer, bah, ça fait du bien.
C'est une vague sans précédent qui s'empresse et sort les dents, qui se dépêche, qui se défend et qui se dit prête à sauter dedans. Et s'il faut le faire à coup de pierre, la foule en fait son affaire et fonce d'une force de fer. C'est ça un vrai départ en guerre. Des daronnes, des darons, des banderoles, des cartons, des mots d'ordre fait maison et le Delbord prend du galon. Le peuple encercle un palais qui ne dort pas et fait péter le couvercle de la boîte de Pandore. À 17h, les militaires jouaient les médiateurs, c'est te dire l'humeur amère et les aigreurs du parterre. La chaleur, son cratère, la teneur, ses manières, son air et l'heure et la colère du rouleau compresseur. Il te couche, c'est officiel, il te couche, prends ta pelle, creuse ton trou, ferme ta gueule, puis lèche le boule de leur gueule. Trouble, éclat, coup d'état ou dictat du prolétariat, appelle ça comme tu voudras, les gars sont juste en bas de chez toi. Penali, descend, allez, descend, descend maintenant, les mecs qui sont bouillants, brûlants, bruyants. Ça t'embrouille brutalement, ça dérouille de tout pan, ça déboule de boucan, ça te casse les couilles, on est content. Ils sont mendiants, artisans, commerçants, paysans, militants, étudiants, petits parents et grands enfants. Qui crient non, non, c'est fini le temps du sultan en donnant un slogan. C'est tu fous le camp, tu rends l'argent. Ben Ali sort du lit et la lie au mari aussi. Dis-lui de remettre son bikini dans 5 minutes ici. On verra qui est-ce qui va kick et qui est-ce qui va qui sévit. Goule ta clique, t'écoutes ce vie, vu que tes képis se font sévit. À coup de cailloux, crachat de coulis, de kill, de cocktail, de vessie. Sang de vini, compromis, c'est caillasserie sur le pont-levis. On est vendredi et ça sent le crépit. Et l'envie de vous clouer au pilori. Mais la France propose ses services, le savoir-faire de sa police. Serrer la vis, pousser le sévice à ses novices de Tunis. Dresser le phénix, ce sale salam alec, l'embroche à sec, pendant qu'il lui galoche la schneck. La France finira au rasoir, c'est pas le destin, pas le hasard. Le roi est mort ce soir et le peuple criait l'histoire. La France finira au rasoir, c'est pas le destin, pas le hasard. Le roi est mort ce soir et s'est planté dans ma mémoire. Mes yeux et mes oreilles s'en souviennent, parce que ça, ça a de la dégaine, parce que leur date, c'est la mienne. Alors faites-moi plaisir, si vous croisez les mecs de Tunis, dites-leur Psartek, dites-leur merci, et dites-leur que je vous ai personnellement mandaté pour leur dire qu'il y a de la place en France, il y a de la place en France, il y a trop de place en France. Dites-leur que ça rentre, dites-leur que ça passe, dites-leur qu'il y a de la place, dites-leur qu'il y a de la place. Dites-leur que ça rentre, dites-leur que ça passe, dites-leur qu'il y a de la place.
Et on vient d'écouter un morceau de Billy Brolock qui s'appelle 12-01-2011, 12 janvier 2011. Tiens, tiens, tiens. Mais alors, à quoi ça peut nous faire penser? Ah, on aurait peut-être besoin d'un petit point historique sur cette révolution. Effectivement, on s'est dit en fait qu'on allait faire deux différentes parties pour réussir un peu à resituer. Déjà un point un peu historique, parce qu'en réalité, tout le monde n'a quand même pas les mêmes... les mêmes connaissances vis-à-vis de ça, pour qu'on soit un peu d'accord un peu là-dessus. Et puis après, plutôt une partie de comment les médias français, en fait, ils ont, autant les médias français mainstream que les médias militants, ils ont traité en fait la révolution, pour montrer en fait qu'il y a quand même une espèce de continuité coloniale en fait dans l'approche internationale en fait, et de la révolution, et ce côté un peu fantasmé de la révolution. Alors, commençons par le petit point historique.
Alors, donc Ben Ali, donc si on peut, parce que moi j'ai pas fait d'études d'histoire, donc je peux partir dans tous les sens, donc j'ai essayé de commencer par des points. Donc on a fait une révolution en Tunisie entre 17 décembre 2010 et jusqu'à 14 janvier 2011. C'était au début une révolte. On n'a pas cru, j'avoue. Moi, j'ai vécu la révolution avec ma famille, donc au début, on n'a pas cru. On s'est dit, c'est juste des jeunes, des saccageurs, etc., qui sont dans la rue, qui font n'importe quoi, qui sont là pour voler. Et après, lorsque ça commence un peu à sortir et commence un peu... pas facile à contrôler par les médias, on s'est dit, c'est peut-être une révolution, c'est peut-être quelque chose qui va nous apporter la démocratie, la liberté, j'avoue, au début, on ne savait pas trop c'est quoi la démocratie, c'est quoi la liberté, c'est quoi les prisons, les victimes de torture de Ben Ali, etc. Donc Ben Ali, c'est le deuxième président pratiquement officiel de la République tunisienne. Il a fait donc 23 ans d'état, je sais pas comment dire ça, mais c'était en fait, au début, ça a été en fait après le premier président, donc Bourguiba, c'est le premier président après l'indépendance tunisienne en 1956. Et donc c'est lui qui a quand même travaillé beaucoup en néo-Dostour pour apporter l'indépendance, etc. Et après, il a donc été président à vie. Après, c'est Ben Ali qui est venu. Et Ben Ali, c'est un militaire. Il a travaillé quand même beaucoup dans l'État avec des responsabilités très différentes. Et après, donc, il a dit, c'était un peu donc Bourguiba qui est sur le point sur la République, et Bourguiba, il est vraiment âgé, donc il n'arrive plus à faire diriger l'État. Donc Ben Ali, il a pris la décision de prendre l'État. Donc Ben Ali, après, il a repris l'État et il a commencé à diriger l'État, mais doucement. Donc au début, c'était facile, jusqu'à ce que il a tout monopolisé pour lui, sa famille, la famille de sa femme. Il a quand même créé une bonne dictature. Il a bien dirigé l'État dans un sens capitaliste, dans un sens aussi de monopoliser tout ce qui est transport, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est projet, etc. pour lui, sa famille. Donc ça commence à être un peu une monarchie. Et c'est drôle parce que c'est la famille dont je parle, ça s'appelle la famille Trabelsi. Moi, je m'appelle Aziz Trabelsi, mais je fais pas partie de cette famille.
Tu tiens à préciser.
Oui, parce que tu vois, après, c'est Aziz Trabelsi, il parle des Trabelsi. Donc, c'est la famille Trabelsi.
Parce que c'est un nom plutôt répandu en Tunisie.
Oui, en fait, il y a beaucoup d'histoires autour de ce nom, j'avoue, parce qu'au début, moi, on m'a dit que c'est un nom libyen, parce que tu vois, Trabelsi, ça vient de de Tripoli, en Libye, et en arabe, c'est Trables et Trabelsi, donc ça fait la même origine du mot. Mais j'avoue, il y a des personnes en Tunisie qui disent t'es d'origine libyenne, ils trouvent pas ça cool. Donc c'est un peu comme entre la France et la Belgique, entre nous et la Libye. Mais bon, voilà. Donc c'est la famille Trabelsi qui a essayé de monopoliser beaucoup de choses. Et ce qui est très important, au bout d'un moment, on n'a pas beaucoup de liberté. Donc, mais on s'est quand même rendu compte après la révolution, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a pas d'internet, pourquoi il y a 404, donc il y a Ramal 404. Ramal 404, c'est lorsque tu essayes d'accéder à une page internet ou une fenêtre, ils te sortent 404 not found. Et donc, Ben Ali, quand même, il a bien essayé de contrôler les médias, l'internet, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il n'a pas dit. Je me rappelle aussi, à l'école, on faisait des dents et on est obligé de donner de l'argent. Donc on était en classe et on dit ça c'est pour l'association X, c'est la caisse 2626, c'est très connu. La caisse 2626, c'est une caisse pour les personnes handicapées, pour les personnes à besoins spécifiques. Et Ben Ali, il dit vous êtes obligé d'aller dans les classes, de ramasser de la thune des enfants. Et parfois, tu vois, c'était vraiment le combat entre les élèves, qui va donner plus. Et après la révolution, on s'est rendu compte que tout cet argent, c'est Ben Ali qui l'a eu. Donc c'est pas les personnes à besoins spécifiques, c'est pas pour la création des associations, c'est pas pour la création pour le financement des associations. Non, c'était pour le propre financement de Ben Ali, de sa propre monarchie, de sa propre famille. Donc voilà le point historique avec Ben Ali, les danses. Il y a beaucoup d'informations. J'ai essayé d'être un peu rapide et global, mais il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la vie avec Ben Ali. 23 ans, c'était pas facile. 23 ans, c'était vraiment très riche en termes de... Bah, par exemple, je vais finir sur ça. Au centre-ville, à Tunis, on a le ministère de l'Intérieur. Et tout le monde a cru que bah, c'est juste le ministère de l'Intérieur et des bureaux, de l'administration, etc. Et ben, il y a un sous-sol. Et dans le sous-sol, c'est les politiciens, les politiciennes, les personnes qui disent les choses, les personnes qui parlent beaucoup, qui dérangent Ben Ali et tout ça, qui sont en fait, c'est au fait de la prison qui est sous-sol pour ces personnes. Et c'est Ben Ali qui a créé ça pour en fait bien limiter la parole, bien contrôler l'État et bien contrôler les discours et l'État.
C'est-à-dire que le ministère, il est au milieu de la ville, mmh. Et au sous-sol, en fait, il y a une prison qui est cachée.
Exactement.
Et lors de la Révolution, en fait, c'est là où ça a été découvert.
Exactement.
Et j'imagine qu'il y a eu d'autres prisons qui ont été découvertes, non ? D'autres prisons avec des prisonniers et des prisonnières politiques, non ?
Non, c'est plutôt celle-là. Moi, okay. Je me rappelle, donc, mais personnellement, je me rappelle juste de celle-là, parce que les autres prisons étaient vraiment bien connues, mais celle-là, surtout celle-là, elle était vraiment... ben, on n'a pas cru qu'il y a une prison au sous-sol de la ministère, parce qu'on a cru qu'il y a juste des bureaux, on fait des passeports, on fait des cartes d'identité, il y a de l'administration, mais il n'y a pas des prisonniers... prisonniers, prisonnières. Et oui, c'était ça, en sous-sol de notre ministère de l'Intérieur.
Et c'était un peu dans la continuité de Bourguiba aussi, la politique de Ben Ali, ou c'est...
Oui, il y a quand même une certaine continuité entre les deux, parce que bah aussi Bourguiba c'est une personne qui a un ego bien dominant, parce que il a dit bah moi j'étais là pour rapporter l'indépendance, j'ai beaucoup travaillé sur l'indépendance, etc. Donc je mérite d'être président à vie. Donc c'est lui, donc c'est sa propre récompense. Et donc c'est lui qui a créé tout ça, donc tout ce délire de président à vie, etc. Et c'est aussi Ben Ali. Après il a voulu faire ça, mais dans son discours de 13 janvier, on va le voir après, comment il a changé et dire, bah non, je vais pas me présenter aux élections, etc. Alors que c'était pas ça la réalité. Juste aussi entre parenthèses, moi j'ai une tante RCD. RCD en Tunisie, c'est-à-dire elle appartient au parti politique de Ben Ali. Et donc ça c'est drôle aussi, parce que toujours on a des photos de Ben Ali partout à la maison, surtout dans sa maison. Elle dit bah oui, Ben Ali il est le tout, Ben Ali c'est notre sauveur, etc. Il nous donne à manger, il nous donne beaucoup d'avantages, de privilèges. Donc oui, après les RCD, ils ont changé de costume pour dire non, Ben Ali, il n'est pas bien.
Mais quand tu nous racontes ça, ça me rappelle au Maroc où il y a la photo du roi de partout, par exemple. Oui, c'est une monarchie, quoi. Et qu'il faut rien dire sur le roi, quoi.
Exactement, oui. Oui, je me rappelle une fois, en fait, ça me vient de me parcourir la tête. On était chez elle et il y avait la photo de Ben Ali. Et moi, j'ai dit, bah, pourquoi tu mets la photo, etc. Elle m'a dit, ah bah, ferme ta gueule. On parle pas de Ben Ali comme ça. Et que, donc, ça a été vraiment un peu frustrant. Et c'était vraiment un peu en mode, qu'est-ce qui se passe? Il est là, il nous suit, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est vrai.
Mais le culte de l'image, c'est des trucs importants dans les démocraties ou les dictatures. Parce que là, quand il y avait le mouvement des Gilets jaunes, il y a une action, je ne sais plus si Gilets jaunes, ou les écolos, où il y avait des actions, ils allaient décrocher le portrait de Macron, et un truc que tu crois que c'est anodin, et ils ont tous été poursuivis en justice pour enlever les portraits de Macron qui étaient dans les mairies. Et par exemple, là, sur la loi séparatisme qu'ils sont en train de travaillé assidûment au Sénat et à l'Assemblée nationale. Il y a ce pacte républicain qu'ils veulent imposer aux associations et défendre dans les idées qu'il y avait. Et là, c'est pas encore sûr si ça passe ou ça passe pas, mais c'est dans les associations de quel type qu'elles se soient. Il y en a des milliers en France, de mettre le drapeau, de faire la promotion d'hymnes, dire des trucs très... on voit souvent que ça passe par des codes, quoi, le drapeau, l'hymne, la photo du président ou du dictateur, des trucs qui viennent réaffirmer vraiment sur quoi dire tout le monde doit se mettre derrière ces valeurs-là pour être sûr de pas se faire taper dessus ou pour vraiment contrôler des idées des populations. C'est des trucs qu'on voit bien que c'est les frontières, quoi, qui ont l'air des fois assez anodins, en fait, de dire il y a le drapeau de partout. Je dis qu'on l'air, quoi.
Juste qu'on l'air, vite fait, quoi.
Allez, on vous met le petit discours.
Je vous ai compris.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Bonjour. Je m'adresse à tous les Tunisiens et à toutes les Tunisiennes aujourd'hui.
Kallamkoum l'youm. ونكلمكم الكل في تونس وخارج تونس.
Je m'adresse à vous, donc les Tunisiens et les Tunisiennes ici et aussi à l'étranger. Je vais vous parler de votre langue, donc pas l'arabe classique, mais le tunisien.
بلغة كل التونسيين والتونسيات. نكلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير.
Donc je m'adresse à vous maintenant parce que la situation maintenant impose le changement. Un changement profond et global. Je vous ai compris. Et oui, je vous ai compris. J'ai compris tout le monde. J'ai compris le chômeur. J'ai compris les personnes précaires.
Le politicien
qui veut plus de liberté. J'ai compris tout le monde. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est pas le nôtre, ça nous appartient pas. La violence, c'est pas dans nos habitudes. C'est pas dans l'habitude du Tunisien et des Tunisiennes civilisés. La violence nous appartient pas.
Alors pourquoi on a décidé de passer ce mix de deux discours?
Donc, ce qu'on a trouvé drôle dans notre discussion au début, on a dit, moi j'ai dit, Ben Ali, il a dit, je vous ai compris. Et vous avez dit, De Gaulle aussi, au 4 juin 58, il a dit aussi, je vous ai compris. Donc apparemment...
Mais c'était à Alger.
Ouais.
C'était à Alger. Et c'était pas anodin, en vrai, que c'est...
au moment de l'indépendance de l'Algérie.
Donc oui, et c'est au fait, pour le moment, je vous ai compris, en Tunisie, NFM, comme c'est un mythe, en fait, c'est quelque chose de très important. Et là, même en famille, lorsqu'une personne parle, je dis oui, je vous ai compris, là, parce que ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris 23 ans pour comprendre sa population. C'est quand même pas court. C'est quand même long pour comprendre sa population. 23 ans, c'est quand même 23 ans de dictature. C'est c'est pas facile. Mais après, il a dit, bah oui, je vous ai compris. Et après aussi, si on, donc, on a juste pris cette partie du discours, mais dans son discours, il a dit, bah, il y aura plus de censure. J'ai bien compris les libertés. On va essayer de créer de la démocratie. Je vais pas me présenter pour les élections de 2014. Je vais pas faire ça. Je vais pas faire ci. Donc, je vais essayer d'être. Donc, j'ai compris que il a aussi parlé des troubles de la famille. Il a dit, bah, j'étais entouré par des personnes malsaines, c'est des personnes qui ont voulu profiter et tout ça, mais il a dit ça au Fayouhasaboun, genre ils vont être jugés, etc. Donc pour apporter un peu un sens pur de son discours. Et juste, je tiens aussi à dire que Ben Ali, d'habitude, il parle en fosha, donc il parle en arabe classique. C'est la première fois, ça a été un peu choquant pour moi lorsque j'ai écouté ce discours. Bah, il a parlé en tunisien. Et oui, au début, il a dit, bah, même, je vous avais remarqué dans la traduction, on a dit que, bah, il a dit, je vais parler avec votre langue, la langue de tunisien, tunisienne, et il s'est aussi adressé aux tunisiens, tunisiennes à l'étranger. Ça aussi, c'est pas les habitudes de Ben Ali. Donc, il a vraiment essayé d'être global dans son discours parce que c'est vraiment le discours, c'est le 13 janvier et lui, il est parti le 14.
Ah oui, donc c'est la veille.
Oui, c'est la veille. Oui, il était vraiment très bien perturbé. Il était vraiment perturbé dans le son, dans sa voix, dans sa prosodie de discours et tout ça. Mais vraiment, il était vraiment perturbé. Et après, c'était vraiment son entourage, comment on peut aussi voir dans beaucoup de documentaires comment il a été préparé pour partir. Et après, dans tout ce qui est médiatique, on a beaucoup vu, par exemple, c'était drôle, on a d'habitude, lorsqu'on voyait Ben Ali faire ses discours ou signer des conventions, derrière lui il y avait une grande bibliothèque. Et on a cru que c'était livre, on a dit bravo. Vraiment, toute la population fantasmée sur cette bibliothèque. Et finalement, bah, c'était pas une bibliothèque, c'était un coffre caché pour mettre de l'argent. Et c'est drôle parce que après, étonnant comment les gens enlevaient les petits bouts de livres en bois. C'était même pas des livres, c'était juste des bouts de livres, et comment ils ont enlevé pour ouvrir les coffres et pour montrer l'argent. Et c'est de l'argent en devises, donc c'est des euros et des dollars.
Quel âge t'avais, toi, pendant la révolution?
Alors, j'ai 14 ans. J'étais en collège.
J'ai 14 ans maintenant. Je faisais une petite blague, ouais. De nul, mais pardon.
Ben, j'ai eu 14 ans à un moment de au moment de la révolution, j'étais au collège, et je me rappelle, aussi, il y avait on était au collège et nous avons gazé au collège, et il y avait vraiment beaucoup de trucs pas cool dans la rue, on voyait, c'était tout est fermé, etc. C'était vraiment une ambiance un peu particulière. Et oui, c'était à la limite un peu traumatisant comme expérience, parce que les écoles étaient fermées, les commerces, les souks à Tunis, tout est fermé. Et la nuit, on faisait, bah, il y avait le couvre-feu. Bah, moi, pendant la pandémie, on m'a dit, c'est pas cool de vivre un couvre-feu et tout ça. Et moi, j'ai dit, bah, pour moi, c'est c'est un couvre-feu. Et j'ai déjà vécu un couvre-feu dans d'autres contextes. Et c'était pas les mêmes contextes, donc c'était plus difficile, le couvre-feu, au moment de la révolution. Parce que par exemple, au moment du couvre-feu, il y avait des personnes sourdes qui ne pouvaient pas écouter, qui n'écoutaient pas les appels de la police dans la rue. Et donc, il y avait des personnes qui se font tirer dessus. Oui, pour un motif, ne pas respecter le couvre-feu, etc., etc. Donc, un couvre-feu, c'est pas vraiment quelque chose de cool au moment de la révolution. C'est pour ça aussi, je trouve que maintenant, à Tunis, on respecte plus le couvre-feu. Il y a des barrages, il y a vraiment cette peur de sortir au moment du couvre-feu. même si on a des motifs, on n'a pas de motifs. Bah derrière moi, je connais une personne qui a aussi eu des problèmes parce qu'elle était à l'extérieur au moment du couvre-feu. Mais je trouve que les gens à Tunis et en Tunisie ont plus peur du couvre-feu, puisqu'il y a cet imaginaire révolutionnaire de la révolution tunisienne, il y a ce vécu de la révolution tunisienne au moment de faire un couvre-feu. C'était un couvre-feu à 18h, c'est interdit de sortir, et c'était dur.
Et c'est parti d'où la révolution, pour dire 2-3 mois, hein, pour se remettre vraiment le cadre. Je pense que ce qu'on se rappelle, c'est que c'est parti du sud, quand nous on doit se rappeler il y a 10 ans, de gens qui vendaient, d'un type qui vendait dans la rue, c'est ça?
Oui, au fait, oui, je parle de Mohamed Bouaziz. Donc c'était le début de la révolution. Donc Mohamed Bouaziz, c'est un jeune de 26 ans. Il a fait donc une immolation par feu devant le gouvernorat de Sidi Bouzid. Le 17 décembre, c'était en septembre, et il a eu des brûlures de 3e degré, et après il a été transporté à l'hôpital de Grand Brûlé à Tunis. Donc au début, l'événement n'était pas bien médiatisé, c'était un peu caché, c'était un peu... on écoutait des gens parler, oui, il y a quelqu'un qui a fait une tentative, qui s'est mis le feu à cause de fait, au fait, lui il est chômeur et il ne trouvait pas de travail et il vendait donc des fruits et des légumes. Et à un moment, normalement, donc à Tunis, on n'a pas le droit de vendre sur des charrettes, c'est ça. Donc et de faire comme on veut. Donc il y a des lois entre guillemets. Il faut avoir une autorisation. Donc lui, il n'avait pas l'autorisation et c'était pas facile d'avoir cette autorisation, puisqu'il y a c'est la question de corruption, etc. Donc c'est pas facile d'accéder à l'administration, d'avoir des autorisations. Donc lui, il n'a pas eu cette autorisation, mais quand même il vendait parce qu'il n'a pas de solution. Donc pour vivre, pour manger. Et à un moment, il y a en fait une policière qui a renversé les fruits et les légumes par terre. Il a frappé Mohamed Bouazizi, donc lui il se sentait humilié. C'est aussi, il y a quand même, je sais pas comment expliquer aussi la situation, parce que lui, lorsqu'il a dit, il a pas dit, mais les personnes autour, il dit, c'est une femme qu'il a frappé, etc. Donc il y a aussi c'est une armée à double tranchée, donc il y a aussi cet enjeu sexiste qui sortait au moment de la révolution, cette misogynie pour dire c'est une femme, comment elle a osé gifler un mec qui vend ses fruits, ses légumes. Et donc c'était ça le premier feu de la révolution en Tunisie. Après donc Sidi Bouzid, donc c'est au centre de la Tunisie, c'est le cœur de la révolution. Après c'est parti un peu plus, donc parce qu'en fait nous à Tunis il y a l'est et l'ouest. L'est c'est vraiment les régions touristiques, Hammamet, Sousse, Sfax, Djerba, etc. Et c'est bien centralisé aussi à Tunis. Et il y a aussi le nord, mais il y a l'ouest qui est vraiment, il y a beaucoup de soucis au niveau de l'ouest, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation. Il y a des enfants pour aller à l'école, ils font entre 10 et 12 kilomètres le matin à pied. Donc il y a vraiment un contexte social qui est un peu dur.
Alors on voulait écouter un morceau qui parle de ce contexte-là. Tu veux le présenter?
Oui, au fait, c'est un rappeur qui a fait une chanson qui s'appelle NFM, comme je vous ai compris. Donc, peut-être on va vous laisser écouter cette chanson et après on va faire un petit retour de tout ce qu'il dit dans la chanson.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Shabab al-Muntafaz. الثورة متاع الشباب نعرف اللي فديتهم السابع من نوفمبر حبيتوا تردوها 14 جانفي لكن
حبيت نعلمكم رسميا اللي رغم اللي أنا خرجت مشيت للسعودية خليت لكم قناصة أكثر من 1000 قناص وأكثر من 1000 قديش هما يا ليلى اي زوج ملايين RCD منظمين باش يتلاقوا بيكم لهوة خاصة. تحية من السعودية من زين العرب بن علي. أنا فهمتكم اي نعم فهمتكم أول شو نوريكم طاو بكل حاسة ييه بكل حاسة بكل حاسة 1 2 1 2 أنا بن علي في المايك أها أها صوت الشباب صوت الراب صوت الراب بن علي في المايك ييه نمبر 1 في المايك بكل حاسة أنا فهمتكم بكل حزم
منين فهمتنا 23 سنة استغفلتنا كفنتنا تكلمت انت وسكتنا منين فهمتنا تحب تحكم مدى الحياة قيمت الموتى في الانتخابات حتولك شوابات منين فهمتنا توا فهمتنا فرقت الجيوب اختلت قلوب حبيت كرسيك ما صنتنا فهمتنا هربت فلوسنا لسميسرا خليت البلاد ميزرة عشت انت وقتلتنا
أنا فهمتكم أنا فهمتكم أي نعم فهمتكم بكل حزم بكل حزم غلطوني غلطوني بارك الله فيكم أردنا بكل حزم بحيث الشباب الوطن أنا فهمتكم أي نعم أنا فهمتكم
منين فهمتنا سكت فهم وعملت لنا الجام مرسرتنا حصرتنا وصنصرتنا منين فهمتنا بالفساد عفنتنا 23 سنة وانت هنا دمرتنا وززرتنا فهمتنا وقفوا لك رجال البلاد تبرينا منك بالحرية اللي في الدم شرات منين فهمتنا 23 سنة علينا تفرضت واليوم ترفضت يزي ما عيلتك عضت يزي ما ازيد وانفضت راك مرضت انا تونسي انت فضت ما تقولش تفضت وما تقولش فهمتنا
انا فهمتكم انا فهمتكم اي نعم فهمتكم بكل حزم بكل حزم غلطوني غلطوني بارك الله فيكم أردنا بكل حزم بحيث الشباب الوطن أنا فهمتكم أي نعم أنا فهمتكم
منين فهمتنا بالفليك يا عاملو ترافيك برشا الناس مشات في العفس مظلومين في الحفظ منين فهمتنا الفنانين كي قالوا الكلام من هنا من أرض الوطن بكلابك هندنا فهمتنا فشكون تسكن حطيت منين في شايد باش لا يتجد الحكم منين فهمتنا تعمر في المعمر المعمر ترجع تكمل تكور معاش ماركيلك متسلل
أنا فهمتكم أنا فهمتكم أي نعم فهمتكم بكل حزم بكل حزم غلطوني غلطوني بارك الله فيكم أردنا بكل حزم بحيث الشباب الوطن أنا فهمتكم أي نعم أنا فهمتكم أردت أن أوصيكم على طياراتي وشركاتي وسياراتي وقصوري وبنوكي وإذاعاتي وأملاكي وأموالي وهكتاراتي ونسابي وقفافتي ورسيداتي وقلكم يا شباب مبروك عليكم 14 جانفي ومرحبا بكم في السعودية هاني في السعودية
Game over. Donc on vient d'écouter le morceau de Le Général, donc Anna Femme, comme je vous ai compris. C'est une chanson et on a bien entendu aussi la voix de Ben Ali, mais c'était pas la voix de Ben Ali. C'était une personne qui imitait la voix de Ben Ali parce qu'il disait vraiment des trucs que Ben Ali n'osait pas le dire. Genre maintenant je suis à l'Arabie Saoudite et voilà, venez me chercher, je vous attends, etc. Donc mais ce qui est très bien, ce qui est aussi bien dit, il a dit bah t'as dit, je vous ai compris, mais ça t'a pris 23 ans pour nous comprendre. Minfemte, comment au fait, il faut expliquer comment, qu'est-ce que t'as compris au fait exactement, parce que il y a beaucoup de problématiques, il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Il y a pas de liberté, il y a beaucoup de censure, il y a beaucoup de centralisation. Comme entre parenthèses, je vais pas avancer, mais j'ai juste, il y a des personnes maintenant qui disent bah on regrette la révolution parce que un ventre plein c'est beaucoup mieux d'une parole libre. Donc ça reste à discuter, et ça reste aussi des positionnements qui sont différents. Donc voilà, donc c'était le morceau qui a fait le buzz après la révolution à Tunis et en Tunisie.
Et donc on voulait continuer l'émission sur l'imaginaire qu'il y a eu en France, parce que comme on le disait au début de l'émission, il y a eu ce truc la révolution tunisienne, quand elle est arrivée, ça faisait rêver. En tout cas, moi, dans les groupes militants dans lesquels j'ai pu être, il y a eu des soutiens ouvertement en France de différents groupes militants de couleurs très différentes, de l'extrême gauche au groupe anarchiste. C'était un peu un espoir que quelque chose d'autre puisse arriver, de dire ah bah là le peuple il soulève, il peut transformer les choses. Et du coup on avait envie de revenir sur ces imaginaires là qu'il y avait en France, comment c'était relayé soit par les médias, soit aussi par l'implication du gouvernement français dans cette question qu'on va après plus approfondir dans une prochaine émission, mais sur les liens aussi coloniaux entre la France et la Tunisie qu'on voudrait pas taire, et du coup aussi ce regard peut-être biaisé du côté en tout cas de la France. Mais c'était une des choses qu'on avait envie de points de rencontre qu'on avait envie de faire dans cette émission. Et donc on est parti de nos rapports de la radio à la cette révolution française, au regard français. Donc on a fait un petit montage pour un peu illustrer les questionnements et ces discussions qu'on avait ensemble dans nos salons.
h05 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Oui, bonjour. On a tous vu cette superbe image d'une Tunisienne brandissant une pancarte qui indiquait « Ben Ali dégage ». Je serais tenté d'ajouter « Sarkozy aussi ».
Voilà, on dit « le grand soir », et puis après, on se dit « c'est pas possible, il n'y aura jamais un grand soir ». Ben voilà, pour les Tunisiens, c'est arrivé par une belle soirée de mois de janvier. Ben, ils ont eu leur grand soir. Et puis, l'espèce d'abruti, il est parti. Ben voilà, c'est comme ça, le grand soir, ça arrive. Et puis, on va leur souhaiter bonne chance parce que ça fait bigrement plaisir, ça fout les larmes aux yeux. Allez, bisous à tous.
Oui, bonjour, je m'appelle Mariam Marouki, je suis tunisienne. Je suis sortie aujourd'hui de Tunisie. S'il vous plaît, c'est le chaos chez nous. Aidez-nous, dénoncez cet assassin. Il faut qu'il parte de chez nous. Laissez-nous écrire notre histoire. Le peuple tunisien ne veut plus de ce dictateur. Qu'il parte, s'il vous plaît. Mon pays, il est en feu. Les gens sont en train de mourir. On ne veut pas de lui. On ne veut pas de lui. Il nous a dépouillé, lui et sa famille. Ça suffit, il n'y a plus rien à voler en Tunisie. Il doit partir. S'il vous plaît, c'est le chaos. Merci, merci.
Vendredi 14 janvier 2011, état d'urgence en Tunisie. Zine El Abidine Ben Ali s'est enfui sans démissionner. Du coup, le Premier ministre Ranouchi a pris la parole sur la chaîne d'État TV7. Il déclare qu'il assurera désormais l'intérim quelques mois, le temps que la transition se fasse. Pour certains, la Constitution n'est pas respectée. Ce serait au président de la Chambre des députés, Fouad Mbaza, de jouer ce rôle pendant 45 jours, le temps de procéder à de nouvelles élections. Twitter et Facebook continuent de devancer les médias. Il y a des rumeurs d'avions de Tunisiens qui se posent à Malte, au Bourget, puis en Sardaigne, et apparemment l'un d'eux qui prendrait la direction de Dubaï, où Leïla Trabelsi, épouse de Ben Ali, s'est déjà réfugiée. Finalement, on dit que Ben Ali aurait atterri en Arabie Saoudite. Des messages continuent donc de fuser sur les gens qui manifestent aussi cette nuit malgré l'état d'urgence décrété. La violence qui continue, les coups de feu, les pillages par la police ou par les pro-Ben Ali. Toutes ces infos sont difficilement vérifiables, mais en attendant, c'est la société civile dans la rue, avec les téléphones portables qui filment, et ces internautes qui ont pallié l'assourdissant silence des médias traditionnels, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Et Wikileaks, c'est bien faux, n'a rien révélé de nouveau, si ce n'est à ceux qui fermaient les yeux jusqu'à présent. Des photos et des vidéos continuent aussi de circuler sur la toile, notamment sur Facebook. La révolution n'est pas finie, loin de là. Siham Ben Sedrine déclarait ce soir sur France Inter que l'armée ne devait pas prendre le pouvoir. Il faut en effet espérer que l'armée se contente d'assurer le calme, qu'un espace d'expression politique soit vite reconstruit. Dans une vidéo postée vers 22h sur Facebook, toujours par un internaute, Souhaï El Tlili, on voit des manifestants qui se sont rassemblés cette nuit devant la Beladeir, c'est-à-dire la mairie, d'une ville située à 15 km de Tunis, Oued El Lil. Sur la vidéo, un militaire appelle au calme. Puis, la vidéo finit sur les citoyens qui remercient les soldats chaleureusement et leur serrent la main. L'armée, qui désormais assure le maintien de l'ordre à la place de la police, a une bonne image auprès de la population parce que le chef d'état-major de l'armée de terre, Rachid Ammar, s'est fait limoger suite à son refus de réprimer les manifestants. Contrairement à la police qui, elle, a commis et continue de commettre encore de nombreux crimes. Personne ne peut dire ce qui atteint la Tunisie après ce grand soir. Une reprise en main du pouvoir par des cadres du parti de Ben Ali, le bien nommé Rassemblement Constitutionnel Démocratique, ou alors un coup d'état militaire, ou une transition vers un régime démocratique. Les Tunisiennes et Tunisiens assassinés seront-ils morts pour rien ?
Les journalistes l'attendaient particulièrement sur ce sujet. Depuis un communiqué laconique sur la situation en Tunisie daté du 15 janvier dernier, Nicolas Sarkozy ne s'était pas encore exprimé directement sur la chute du régime de Ben Ali. 9 jours de silence assumé et justifié par le chef de l'État.
Je revendique une certaine réserve lorsqu'il s'agit de commenter les événements de pays qui ont été la France.
Les journalistes l'attendaient particulièrement sur ce sujet. Depuis un communiqué laconique sur la situation en Tunisie daté du 15 janvier dernier, Nicolas Sarkozy ne s'était pas encore exprimé directement sur la chute du régime de Ben Ali. 9 jours de silence assumé et justifié par le chef de l'État.
Il y avait une désespérance, une souffrance, un sentiment d'étouffé dont il nous faut le reconnaître, nous n'avions pas pris la juste mesure.
Un début d'autocritique qui ne convainc pas sur l'offre de coopération policière de la France au régime tunisien lors des premiers jours des émeutes. Nicolas Sarkozy assume, selon lui, Michel Alliomari, à l'origine de cette proposition, n'avait pas d'intention défavorable vis-à-vis des manifestants. Le chef de l'État reconnaît tout juste que ses propos ont pu choquer sur la forme.
Oui, Daniel Hervé, ici Lyon, Chevalier de Lyon. Voilà, j'appelle là qui je suis. Et ici, voilà, c'est les Tunisiens qui fêtent le départ du dictateur Ben Ali. Je voulais vous dire juste un petit mot. Grosse ville, Daniel. Il y a des centaines et des centaines ici, devant le consulat tunisien. Nous dansons, nous chantons. Allez, nous, à très bientôt, Daniel. Au revoir.
Comment Mme Alliomari peut-elle rester ministre des Affaires étrangères après avoir proposé une aide policière de la France au dictateur Ben Ali? Comment est-ce possible? Comment les Français peuvent tolérer d'être représentés à l'étranger par cette personne? Je vous pose la question.
Je lève mon verre pour nos frères tunisiens. Vive la Tunisie! Et la Tunisie en janvier, espérant que l'Algérie, ça sera en février. À bientôt!
Voilà, espérons que ce sera en février. Formidable, ces moments que le monde entier vit autour de ce petit pays, la Tunisie. Émotion, vibration, emballement, fascination, pessimisme, optimisme, grand moment. Indéniablement, aujourd'hui dans la basse, j'y suis, hommage à la Tunisie, aux Tunisiennes et aux Tunisiens qui se sont insurgés.
Voilà, donc on trouvait que donc le Daniel Mermet, là, que beaucoup disaient coucou Daniel, a résumé bien ces sentiments et cet état dans lequel à ce moment-là, en tout cas en France, peut-être en métropole, il y avait par rapport aux révolutions, comme si d'un seul coup, un peu cet idéal de le grand soir arrivait devant nos yeux, et on ne sait pas trop si on était ébahi que... on développera plus sur vraiment les liens coloniaux, sur les imaginaires aussi, de pourquoi, en fait, comment on perçoit aussi les révoltes et révolutions, et on y croit à un moment ou on n'y croit pas. Mais on trouvait vraiment que tous ces sons, donc au début c'était le début de l'émission où c'est un répondeur, reflétait un peu un état d'esprit qu'on voulait retransmettre là dans l'émission. On va conclure cette émission, c'est passé super vite.
Oui, on voulait juste parler un peu des lapsus qu'on a.
Ah oui. On voulait me tailler.
Oui. Oh bah pas que toi.
Oui,
on a été plusieurs.
Tu étais responsable. Oui, c'est cool comme ça. Je me vends en tant que psychologue en formation.
Comme ça, toi, t'as tout dit. Hein, de côté.
Oui.
Nous, on reste assez. Ouais, plus ou moins. Ouais.
Par rapport à ces lapsus de ce qu'on a fait entre révolution tunisienne et révolution française, moi, j'ai un truc un peu à vous dire par rapport à ça. J'étais dans mon cours, j'étais dans le collège, mon cours d'histoire géo, avec ma prof, donc que j'aime bien, parce que elle a sa méthode vraiment très pédagogique de raconter les histoires, de vraiment faire des cours d'histoire et de géo. Et après la révolution, donc c'était vraiment pas facile pour elle. Comment elle va gérer des adolescentes qui ont beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup de questionnements par rapport à la situation. Qu'est-ce qu'on va faire après et comment on va vivre? Et bon, elle, ce qu'elle a pour nous rassurer, elle a dit notre révolution c'est le 14 janvier. Et on a bien vu dans le cours précédent, la Révolution française, c'est le 14 juillet. Donc parfois le hasard fait bien des choses. On a eu la chance aussi, c'est pas pour rien que c'est 14 juillet, 14 janvier. C'est cool, c'est bien, etc. Donc en fait, on n'a rien compris de cette liaison, de cette transition entre Révolution française, Révolution tunisienne. Pourquoi ? Oui, 14-14, mais ça veut rien dire. Elle a essayé de nous rassurer sur ce point, en fait. Et même après, on a dit, madame, la situation, parce que j'avoue, après la révolution, tout le monde a une idée, tout le monde veut dire des choses et tout ça. Donc nous, on était des ados en mode, non, madame, la révolution, il fallait faire ça, il fallait faire ci et tout ça. Elle a dit, oh, vous inquiétez pas, la révolution française a pris beaucoup de moments pour... la population française, elle a quand même pris aussi beaucoup de moments pour se remettre et tout ça. Donc nous aussi, on va prendre notre temps. Donc oui, c'était drôle.
On pourra creuser ce sujet
dans le prochain volet. Quand va-t-il être fait ? Peut-être dans un mois, peut-être avant, vous le saurez assez rapidement.
Avant les 20 ans, ça c'est sûr.
Avant les 20 ans, c'est promis ça. On vous remercie tous et toutes de nous avoir écoutés ce soir. Et on va écouter une dernière chanson pour clôturer cette émission qui s'appelle Médusa. On vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes.
Bonne soirée à tous et à toutes.
Merci.
Bye bye.
Merci. Bye.
الجهل تغاب خلانا من نقيض النقيض وين الحرية اللي جريوا عليها الرجال فرحة ما تمت وينو الاستقلال ادفو كونسيون الشعب ولا ديفيزي افلام تنبير ورعب توتي كالكولي شعبي كونسومي بيسك سم تسرب مش احنا اللي جبناه هما يحبوا مخنا مخلك باغاليتي الشعب ولا فالسو تنكر في الهوية هذا الوين يحبوا يوصلوا ياخذوا الفلوس سوا ديزون الاعانات اجا وريني خويا في الشمال من البرد مات حبوا على الجهل ولا بزيد لا بروف لا بيت تزيد الاوبجيكتيف ما عادش واحد كيف ما قالوا وكاك ديفيزي بو ميو غيني This is the new world order Excessive liberty We're gonna make a sound Even that will be alright We'll be stronger You can fire Destiny or liberty You want us like the soldier Giving us your damn order Nothing can stop Hand in hand, bruh We gonna be stronger So hold up الاشكال تتحكم فينا قاخدي فوت دينيتي لعبة لعبوها والحكومة شكلوها نجموا انكوغ يوفا الكريسي نعاودوا نفكوها انا تونسي الحر اللي عرّى صدره للكرتوش أنا الأمة مش شهيد حقه ما خذيتوش يهبلوا فينا بالأفلام يركبونا في الشك التونسي يمشي في الشارع يغزر الخوه على جنب مسلمين وبا ديما متحتين اقفوا اقفوا للبلاد فما المتشمتين يحبونا ساكتين نجري وراء القدمة شعلوا النار في الأسوام حتى كان جا فما خدمة برشا بهام وبرشا جهل وبرشا خوف هذا اللي نحس فيه هذا باش قاعدة نشوف كيف ما قالوا وغريك ديفيزي بومي غيني This is the new world order excessive liberty
You don't gonna make a sound even though we'll be right We'll be stronger you can fire this in your liberty You want us like the soldier giving us your damn order Now they get up hand in hand bruh We gonna be stronger So hold up
شوى واللي بطال